Débat, BBC Afrique, Africa Radio, présenté par Liliane Niacha et Francis Laloupo. Le débat.
Bonjour, bienvenue et merci de vous joindre à nous pour ce nouveau numéro de votre magazine hebdomadaire. Bonjour Francis Laloupo.
Bonjour Liliane, j'espère que vous allez bien et merci à nos auditrices et auditeurs de leur belle fidélité à ce rendez-vous.
Merci de prendre mes nouvelles, je me porte très bien.
Et toute l'équipe de BBC à Dakar aussi, j'espère.
Tout à fait, je vous le confirme, Francis. Tout le monde va bien.
Au sommaire, Liliane, de cette édition, un premier sujet, un nouveau président pour le Burundi, l'investiture d'Évariste Ndayishimiye, initialement prévue pour le 20 août prochain, a été avancée de 2 mois.
Oui, en effet, la Cour constitutionnelle en a décidé ainsi la semaine dernière après avoir été saisie par le gouvernement et les deux vice-présidents pour constater la vacance du pouvoir suite au décès brutal du président Pierre Nkurunziza en début du mois. Son successeur, élu le 20 mai dernier, a donc été investi jeudi. De quel pays hérite Évariste Ndayishimiye ? Suivra-t-il le chemin tout tracé par celui qu'il avait choisi comme dauphin et présenté comme héritier ? Ou va-t-il au contraire, s'affranchir du système Nkurunziza dont il est un pur produit et imprimer son propre style dans la gestion du pouvoir? Quels sont les obstacles éventuels s'il choisissait l'une ou l'autre voie? Analyse.
Au Mali, le président Ibrahim Boubacar Keïta peut-il encore convaincre ses opposants, en tout cas dans un discours à la Nation? Le 14 juin dernier, il a tendu la main à ses adversaires et s'est dit également prêt à former un gouvernement d'union nationale.
J'ai entendu les colères et les cris, j'ai entendu les revendications et les interpellations. Chaque Malien qui souffre ou qui manifeste m'interpelle mérite mon attention, a déclaré le président Keïta. Une sortie consécutive à la mobilisation populaire de ce mois, de milliers de Maliens sont sortis dans les rues de la capitale Bamako à l'appel de l'imam Mahmoud Diko pour exiger la démission du chef de l'État malien, incapable selon eux de diriger le pays. Cette posture de main tendue va-t-elle sauver son pouvoir ? Peut-elle aider à apaiser le climat politique électrique au Mali ? Le débat, c'est à suivre.
Et un troisième sujet, Liliane, l'Afrique qui demande une enquête de l'ONU sur le racisme dit systémique aux États-Unis et les violences policières. Les pays du continent tentent de convaincre le Conseil des droits de l'homme de se pencher sur cette question.
Mais sera-t-elle entendue, Francis? Cette demande qui n'enchante pas Washington fait écho aux manifestations, à l'indignation et à la mobilisation mondiale provoquée par le meurtre de l'Afro-Américain George Floyd par un policier blanc aux États-Unis. Francis, merci de nous présenter le plateau.
Oui, notre grand témoin invité dans cette édition au téléphone depuis Bujumbura au Burundi, Domitien Ndayizeye, ancien président du Burundi. Monsieur le Président, bonjour.
Bonjour, cher frère.
Merci d'être là avec nous, Monsieur le Président. Rapide présentation, vous êtes né le 2 mai 1953 à Murago, province de Kayanza, et vous avez dirigé le Burundi du 30 avril 2003 au 26 août 2005. Vous étiez également candidat à la présidentielle du 20 mai 2020. Vous serez notre grand témoin dans cette édition et nous vous en remercions. Et un confrère invité dans cette édition, au téléphone depuis Bamako, Ibrahim Koulibaly, directeur de la publication de l'hebdomadaire La Nouvelle Tribune, édité au Mali. Ibrahim Koulibaly, bonjour.
Bonjour Francis, bonjour Liliane.
Merci.
Bonjour Ibrahim.
Et voilà pour le plateau, Liliane, cap sur le Burundi, tout de suite.
Absolument. Et lors de sa prestation de serment jeudi cette semaine à Gitega, le nouveau président burundais, Évariste Ndayishimiye, a juré devant Dieu, devant le peuple burundais, fidélité à la charte de l'unité nationale, à la constitution du Burundi et à la loi. Le président élu qui entame son septennat a également rendu un long hommage à son prédécesseur Pierre Nkurunziza, son mentor, qu'il a soutenu, choisi comme successeur. Le général est désormais président, s'est aussi engagé à poursuivre son œuvre. Retour sur ce qu'il a dit, sur l'essentiel de ce qu'il a dit lors de sa prestation de serment avec Samba Siouzouzo des services Grand Lac de la BBC.
Il y avait serment l'ancien président de la Tanzanie, Jakaya Kikwete, et la première vice-présidente de Tanzanie, Madame Sisulu.
Et que retenir du discours du nouveau président de la République?
Le nouveau président a insisté sur la restauration d'un état des droits, il a appelé aux réfugiés de rentrer au pays, il a parlé un peu du coronavirus, il a demandé aux Burundais de faire toutes les mesures données par la ministre de la Santé pour se protéger contre le coronavirus. Mais malgré tout, dans les stades, il y avait plein de gens qui ne portaient même pas des masques.
Est-ce que le nouveau président a rendu hommage à son prédécesseur Pierre Nkurunziza?
Oui, il a vivement pris plus de 30 minutes à parler de ce que le président Nkurunziza a fait. En parlant de Nkurunziza, il parlait vraiment de quelqu'un qui a fait du bon au Burundi et qui est à la mémoire du pays.
Samba Sizuzu des services de Grand Lac de la BBC, au micro BBC Afrique de Siegfried Dienukpo. Avant d'ouvrir les débats, Monsieur le Président, dites-nous, pourquoi avez-vous décidé d'assister à l'investiture du président Évariste Ndayishimiye, alors que, par exemple, Agathon Rwasa, candidat arrivé deuxième, a décidé de ne pas s'y rendre?
D'abord, je ne peux pas dire que Agathon Rwasa n'est pas venu de son plein gré. Jusqu'à présent, personne ne nous dit pourquoi il n'est pas venu. Probablement qu'il n'a pas eu l'invitation ou probablement qu'il avait un problème personnel de santé, je ne sais pas. Mais toujours est-il que à l'issue du processus électoral que nous avons bien suivi et auquel nous avons participé, nous avons estimé qu'il fallait suivre la loi telle qu'elle est inscrite dans la Constitution et dès lors que, au-delà de toutes les péripéties qui ont émaillé ce processus et des différentes remarques qui ont été observées ici et là, et dès lors que la Constitution estime que le dernier mot appartient à la Cour constitutionnelle et que la Cour constitutionnelle a dit les choses ainsi, il était de notre devoir en tant que citoyen respectueux de la loi
républicain
de participer à cette investiture. J'y suis allé de plein gré et je crois que je n'ai pas à le regretter.
D'accord. Donc on comprend forcément que vous n'êtes plus dans la contestation de ces résultats comme l'opposant Agathon Rwasa. Si on revient au discours rapidement du président Évariste Ndayishimiye, il a parlé de réconciliation, de lutte contre le coronavirus, retour des réfugiés, mais de bien d'autres sujets. Mais quels sont les aspects du discours du nouveau président qui étaient selon vous essentiels et quel est le sujet qu'il aurait, d'après vous, peut-être occulté ou omis?
Dans votre exposé, effectivement, vous décrivez bien ce dont il a parlé, mais je voudrais insister que, de mon point de vue, j'ai assisté à son discours, j'ai entendu son discours et je me suis rendu compte qu'il a deux volets principaux. Le premier volet, c'était une grande référence à la situation antérieure du Burundi et la participation de la colonisation dans les malheurs que nous vivons aujourd'hui. Et là, je crois que ce qu'il a expliqué, ce sont des préoccupations qui ont été longtemps exprimées par les institutions d'avant les élections. Et moi, je considère qu'il s'agit d'une certaines préoccupations d'une certaine classe politique, même au sein du CNDD-FDD qu'il a voulu exprimer. C'est critiquable à pas mal de points de vue, parce qu'aujourd'hui, le Burundi, après 60 ans, n'a pas à être malade de la colonisation, comme si aujourd'hui il y avait des séquelles de cette colonisation dans les têtes des Burundais, parce que les Burundais, ils peuvent changer ce qu'ils veulent. Ils acceptent ce qu'ils veulent et ils refusent ce qu'ils ne veulent pas. Qu'ils soient de l'opposition, qu'ils soient même du pouvoir, qu'ils soient en Europe ou qu'ils soient ailleurs, qu'ils soient exilés ou pas. Nous restons Burundais, nous le restons fermement et nous sommes très attachés à notre démocratie. Je n'ai pas encore entendu en Burundi, qu'il soit exilé ou qu'il soit de l'opposition ou d'ici, qui remet en cause aujourd'hui l'indépendance du Burundi. Donc, pour moi, il faut retourner la veste et penser plutôt à notre avenir par nous-mêmes.
Merci.
Le deuxième chapitre, c'était beaucoup plus une vision du Burundi de demain. Et un Burundi qui est respectueux des droits de l'homme, respectueux des libertés publiques, chose qui a été exprimée longtemps par certaines parties dites d'opposition, même s'il veut qu'il n'existe plus de parti d'opposition, mais qu'il existe un débat interne, comme il a bien exprimé. C'est l'idéal, bien sûr, c'est son droit et il faut aller vers là-bas. Il a exprimé beaucoup la nécessité de se mettre ensemble pour le développement, c'est une bonne chose avec beaucoup de promesses au niveau de ce qu'il faut faire. Au niveau national, évidemment, c'est une bonne chose. La construction de beaucoup de routes, etc., est une bonne chose. Il a exprimé une ouverture du Burundi envers l'extérieur. Je crois que cela, nous en avons besoin beaucoup aujourd'hui. Nous ne pouvons pas vivre en autarcie ici.
Merci.
Mais je crois que la volonté qu'il a exprimée de collaborer avec les autres formations politiques par rapport à son plan, à son programme de développement du Burundi, nous devons le saluer beaucoup, mais nous devons attendre et voir réellement ce qu'il va mettre en application, parce qu'il y a toujours un problème entre le dire et le fait.
Merci, vous l'attendez.
Et ça, je crois que l'ensemble des Burundais est prêt à travailler avec lui, parce que ce dont nous avons besoin, c'est réellement de nous développer.
Domitien Ndayizeye, alors au-delà de tous les éléments que vous avez cités là du discours, il y a quand même cette volonté du général Ndayishimiye Chimier de poursuivre, comme il a dit lui-même, l'œuvre de son prédécesseur. Il s'est même engagé à poursuivre l'œuvre de Pierre Nkurunziza. Est-ce que c'est une simple déclaration de circonstance ou alors c'est une profession de foi, c'est-à-dire que est-ce que Ndayishimiye Chimier s'inscrit dans une continuité du régime de son prédécesseur?
Bon, d'abord, je ne crois pas qu'il soit indiqué pour lui aujourd'hui d'émettre des critiques à l'endroit d'un président, parce que nous sommes dans une période assez spéciale.
Il ne s'agit pas de le critiquer, mais quand il dit « je vais poursuivre l'œuvre »
Si critique il devait y avoir, cela ne devait pas provenir de lui, étant donné qu'il provient de son parti politique. Alors, vous m'entendez bien?
Bien sûr.
Oui, on vous entend.
Bon, il est issu de son parti politique, c'est une réalité. Mais toujours est-il que quand il y a un changement à la tête de l'État, il y a toujours quelque chose qui change parce qu'il n'y a jamais deux personnes entièrement identiques. Et il est tout à fait normal, comme je vous ai indiqué dans son discours, les deux volets de son discours, il est tout à fait normal qu'il soit attaché à ce qui était avant, et qui appartenait à son parti politique, mais qui donne aussi des orientations sur ses priorités et sur sa manière de faire. Je crois que si, par exemple, il met en application ce qu'il a dit, qu'il va chercher des gens qui vont réellement être utiles à la population par rapport aux fonctions qu'ils vont occuper, c'est, si j'ai bien compris, une façon d'indiquer qu'il a besoin des collaborateurs technocrates qui soient capables et qui soient aptes à prendre des décisions la ligne qu'il aura indiquée. C'est une façon de
président
travailler
Ndayizeye, mais alors,
l'ensemble des Burundais s'est plainte dans la fois passée, parce que quand vous alliez surtout vous référer à une certaine autorité, soit-elle ministérielle, les gens disaient toujours un ordre qui vient d'en haut, un ordre qui vient d'en haut. Et moi, j'ai salué cela parce qu'il faut que cette situation change, parce que celui qui a une fonction aussi élevée qu'un directeur général, qu'un ministre, c'est quelqu'un qui doit être apte à prendre des décisions suivant les indications qui lui ont été données par le chef de l'État.
Président Ndayizeye,
ces indications sont incluses dans le discours programme qu'il a prononcé hier.
Je crois que il y a le discours,
si
mais
il y a le discours des gens qui étaient autour de moi, mais tout le monde a salué cette vision.
Alors, il y a le discours et puis il y a la structure du pouvoir au Burundi que vous connaissez très bien. Il y a un président, d'accord, mais il y a ce groupe de généraux, ce cercle de généraux qui, paraît-il, détiennent la réalité du pouvoir. Est-ce que Évariste Ndayishimiye pourrait s'affranchir de ce cercle de généraux qui, aujourd'hui, constitue l'ossature du pouvoir et que c'est le socle du pouvoir burundais aujourd'hui, ces généraux?
D'abord, tout cela dépend de sa volonté personnelle. Je dis encore une fois, un chef de l'État reste un chef de l'État. Et je ne crois pas qu'il puisse y avoir un chef de l'État ici au Burundi qu'on puisse garder dans la poche ou à qui on donne des instructions. Parce que c'est lui qui répond de tout ce qui va et de tout ce qui ne va pas. Donc, si les gens lui conseillent de faire quelque chose qui tournerait mal contre lui, sa propre personnalité, moi je suis parmi ceux qui sont sûrs qu'il a le droit de ne pas accepter et il a la possibilité, tous les moyens nécessaires de refuser cela. Je vais vous donner une référence. Quand moi-même, à l'issue des élections de 2005, je lui ai remis mon bâton de commandement, le président de France, je veux dire, son Excellence Pierre Nkurunziza. Je me souviens, son secrétaire général, Rajabu, disait que le parti politique allait lui donner des instructions. C'est lui qui devait lui instruire ce qu'il doit faire. En fait, c'était comme si le président devenait une boîte aux lettres pour signature. Mais tout le monde a constaté peu après que cela ne pouvait pas marcher. Donc, je suis de ceux qui croient que notre chef de l'État n'acceptera pas d'avoir des directives des généraux, futurs des généraux, parce qu'ils resteront généraux à condition qu'ils gardent son bic attaché sur son décret ou sur une ordonnance qui a été signée par son ministre.
D'accord.
Donc, le président de la République a toute latitude avec son bic de
limoger, d'éloigner les personnes
général, qui qu'il soit,
oui.
Parce qu'après ça,
qui pourrait entraver son pouvoir.
La personne n'a personne en dessous.
D'accord. Monsieur Ndaïsimier, alors, est-ce que vous voulez dire qu'il n'y a pas de risque d'Aïzéye, pardon, c'est pas le président Ivaris, évidemment. Est-ce que vous voulez dire qu'il n'y a pas de risque qu'il se retrouve peut-être otage de l'appareil du parti CNDD et du système Nkurunziza?
Pour moi, il ne peut pas en être prisonnier sans sa propre volonté. Vous savez, moi j'ai dirigé le Burundi à une période où il y avait une grande majorité de Tutsis dans l'armée. Moi j'ai eu le temps de discuter avec eux des questions clés, des questions sur lesquelles ils étaient hostiles, mais je suis parvenu à les convaincre. Il a fallu uniquement que je prenne le courage à deux mains, que j'explique le pourquoi et la raison pour laquelle il fallait prendre telle ou telle orientation, d'abord en sollicitant leur propre compréhension, ensuite en exigeant des récalcitrants qu'ils doivent suivre la règle de la majorité. Et moi, je crois qu'au niveau de l'armée burundaise, au niveau de la police burundaise, la grande majorité de tout ce monde là-bas voudrait décompresser pour que cette police puisse être beaucoup plus au service de la population qu'au service de son parti politique. Au demeurant, c'est dans leur intérêt parce qu'il y va du développement de la nation. Et je pense qu'au fur et à mesure que le temps passe, les Burundais, même les personnes du CNDD-FDD, comprennent qu'ils ont intérêt à s'ouvrir à l'endroit des autres formations politiques. Et moi, je pense que si je peux croire le discours du président de la République, son discours, en tout cas dans sa deuxième partie, a abondé dans son sens. Et pourvu que, je dis encore une fois, pourvu que le chef de l'État joigne l'acte à la parole.
Merci. Et on va marquer une pause obligatoire.
Je ne dirais pas que cela dépend des autres. Cela dépend beaucoup plus de lui. D'autant plus que c'est un ancien militaire.
Merci.
Le débat BBC Afrique, Africa Radio.
Avec notre grand témoin invité au téléphone depuis Bujumbura, Domitien Ndaïzeye, ancien président du Burundi, et un confrère invité dans cette édition au téléphone depuis Bamako, Ibrahim Koulibaly, directeur de la publication de l'hebdomadaire La Nouvelle Tribune, édité au Mali. Et avant d'écouter un commentaire d'Ibrahim Koulibaly, je me tourne vers vous à nouveau, Domitien Ndaïzeye. Je voulais votre réaction à cette séquence qu'on a observée lors de l'investiture du nouveau président burundais Evariste Ndayishimiye, qui s'est fait bénir par des différents représentants de confessions religieuses. Alors, on savait la forte inclinaison de Pierre Nkurunziza, son prédécesseur, envers la religion. Quelle réflexion vous inspire cette force présence de la religion aujourd'hui, en fait depuis quelques années au Burundi, dans la sphère de l'État?
Bon, j'ai vu cela, si vous permettez. J'étais là et j'ai vu, j'ai pu assister à cette bénédiction, effectivement, qui a été précédée par une prière. D'abord,
l'Église catholique est fortement implantée
au Burundi, si vous permettez. Et deuxièmement, le président de la République actuel, il est un fervent catholique. Moi, je vois toujours à la messe tous les dimanches. Bon, même si c'est un produit du CNDD-FDD, il ne reste pas moins catholique. Et je crois que cela va certainement marquer la période de sa direction de la nation. Et bon, tout n'est pas parfait, il faut le dire. Je crois que nos évêques ont été très majestueux, ils lui ont donné de bons conseils, de moralité, d'attachement à l'Église et à ses commandements, c'est vrai, mais ils n'ont pas hésité à lui dire, à lui donner de certaines recommandations qui tendent à indiquer qu'il faut qu'il soit un grand rassembleur. Et ils ont même demandé à ce qu'ils puissent tout faire pour que nos compatriotes rentrent. Et ils ont insisté pour qu'ils puissent travailler, pour que les Burundais puissent se développer. Et ce sont des gens qui sont prêts à aider, à intervenir pour que cet idéal puisse être atteint.
Donc, merci. On va écouter, Monsieur le Président, oui, on va revenir à vous, s'il vous plaît. On n'a plus beaucoup de temps pour ce sujet. Oui. On va écouter notre confrère Ibrahim. Vous êtes là, Ibrahim?
Oui, je suis là.
Voilà, vous avez écouté l'intervention de l'ancien président, notre invité Ndayizeye, qui a beaucoup d'espoir pour l'avenir et qui espère que le nouveau président va aller dans le sens de la réconciliation, du développement du pays. Quelle est votre opinion sur la situation post-Nkurunziza avec le nouveau président investi jeudi?
Je partage en partie l'analyse de M. le Président, parce que moi je pense qu'aujourd'hui, le chantier le plus important au Burundi, c'est la réconciliation. Parce que pour son troisième mandat, le pays a été sérieusement divisé, il y a eu en tout cas beaucoup de déplacés, beaucoup de morts, donc beaucoup de Burundais sont à l'étranger. Moi je pense qu'aujourd'hui, il faut aller dans le sens de la réconciliation des cœurs et des esprits, en tout cas pour un nouveau départ. Donc moi, je pense que le chantier le plus important sur lequel il est attendu, c'est à ce niveau-là. Parce que dans un pays comme le nôtre, on ne peut rien obtenir si les gens, les populations sont divisées, si les populations n'adhèrent pas au projet. Le nouveau président, quel que soit son génie, si l'ensemble des Burundais n'adhèrent pas à son projet de société, moi, je vois mal comment il va réussir son mandat. Donc moi, je pense que très honnêtement...
Est-ce que vous envisagez peut-être le retour des exilés, y compris politiques? On parle souvent du Sénarède, de cette opposition en exil un peu disséminée partout en Europe et notamment à Bruxelles, d'autant plus que le président a déclaré qu'aucun Burundais ne va être privé de sa parole, qu'il soit au Burundi ou à l'étranger. Et il a ajouté que le dialogue doit être privilégié et que chacun exprime sa position, son point de vue. Est-ce que pour vous, c'est une garantie qu'il y aura une ouverture politique plus forte et aussi une ouverture vers ces exilés politiques?
C'est une déclaration politique comme toute autre déclaration. C'est un appel en ce sens, mais bon, moi je pense qu'il faut voir ça à l'œuvre, à la pratique. Sinon, les hommes politiques africains sont habitués à de beaux discours. Mais maintenant, pratiquement, comment ça va se traduire sur le terrain quand on sait qu'il est issu des ferrailles, il est entouré des mêmes éléments de l'ancien président, c'est à son âme. Donc, c'est un homme du système, c'est le même élément. Mais bon, il y a un devoir d'ingratitude aussi, parce que ce n'est pas parce que tu as été élu par un système qu'il faut persévérer, persister dans l'horreur, dans le manquement de ce régime-là.
Lui être redevable et fidèle coûte que coûte?
Moi, je pense que, comme je l'ai dit, il y a un devoir d'ingratitude. C'est vrai, il est redevable au système, mais c'est l'intérêt des Burundais qui doit passer en premier lieu. L'intérêt de tous les Burundais. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, il ne peut pas avoir de paix, il ne peut pas avoir de développement sans les retours de tous les exilés, y compris les exilés politiques.
Merci.
Seule la réconciliation prime aujourd'hui.
Merci. Francis ?
Oui, je voulais entendre Domitien Ndayizeye sur ce dossier très sensible des exilés, des réfugiés, près d'un demi-million de Burundais réfugiés à l'étranger. Est-ce que vous pouvez œuvrer à ce que ce dossier soit désormais au centre des priorités dans votre pays ? Et autre question, comme on arrive bientôt à la fin de ce sujet, quel rôle peuvent jouer des anciens dirigeants comme vous dans ce contexte, le contexte actuel, dans cette nouvelle page qui s'ouvre pour le Burundi ?
D'abord nous avons toujours été disponibles en tant qu'ancien chef d'État à être consulté par les autres autorités du pays. Nous restons aujourd'hui. Et deuxièmement, je crois que des inquiétudes ne manquent pas parce que dans sa première partie, par exemple, le chef de l'État s'en est même pris au Sénat, s'en est pris à Ikiviri, qui était
réellement exil,
des regroupements des gens de l'opposition qui avaient certaines revendications, les traitant, si vous voulez, des personnes qui agissent pour le néocolonialisme, etc. C'est pour cela que moi, j'ai tenu à distinguer la première partie de son discours qui apparemment a été écrit ou suggéré par un certain groupe politique, et la deuxième partie qui réellement traduit ce que j'entends généralement de la part du chef de l'État, et où, sur cette question, il a indiqué une position tout à fait contraire.
C'est pour et quel rôle que est-ce que vous pouvez jouer, vous, les anciens présidents,
Pierre Bouyoya et autres, s'il vous plaît. Si vous voulez, la première chose qu'il faudra voir, ce sont les gens qui vont l'entourer dans la gestion prochaine des institutions de l'État. Et c'est là où on verra bien ces personnalités, et les connaissant, nous pourrons donner une indication réelle sur sa volonté de favoriser le retour de nos compatriotes. Au demeurant, son deuxième discours, sa deuxième partie du discours est tout à fait acceptable.
Et quelle direction souhaitez-vous voir le nouveau président prendre ? La continuité, la rupture ? Et quels sont les obstacles, en quelques mots, qui pourraient se présenter à lui s'il choisit l'une ou l'autre voie, c'est-à-dire la continuité ou la rupture avec l'ancien système ? Très rapidement, s'il vous plaît.
Non, c'est pas nécessaire de faire la rupture, mais je crois qu'il faut joindre les deux par des actions et par des débats, non seulement au sein de sa classe politique, mais aussi à l'endroit de ces exilés politiques ou de nous-mêmes et de ces gens de l'opposition, parce que nous avons besoin de changer. Mais en politique, vous savez, les changements brusques s'appellent des révolutions. Et au Burundi, je ne crois pas que ce soit le moment des révolutions. C'est plutôt le moment de la nécessité des changements. C'est-à-dire que les gens du parti au pouvoir doivent apprendre à changer et à travailler avec les autres. Et c'est pour cela que nous parlons de dialogue qu'il faut mettre en avant dans les différentes démarches de la direction de son pays. Merci. Je crois que lui-même en a parlé, à part qu'évidemment, il a estimé que les débats devaient se mener ici à l'intérieur uniquement. Mais même si on est à l'extérieur, on reste Burundais. Je crois que ça, on va en rediscuter encore. Je crois que ce qu'il a dit n'est pas nécessairement la Bible. Et lui-même, il va adapter tout cela avec l'évolution du temps et des mœurs, et même Merci. Des opinions burundaises.
Le débat BBC Afrique, Africa Radio.
Suite du débat BBC Afrique, Africa Radio, notre grand témoin invité, Domitien Ndayizeye, ancien président de la République du Burundi. Il est avec nous au téléphone depuis Bujumbura. Et notre conférencier invité au téléphone depuis Bamako, Ibrahim Koulibaly, directeur de la publication de l'hebdomadaire La Nouvelle Tribune. Et nous allons parler justement de l'ambiance à Bamako, au Mali, la fronde anti-Ibeka, après la massive manifestation du 5 juin dernier, réclamant la démission du chef de l'État malien, Ibrahim Boubacar Keïta, une autre démonstration de force des opposants politiques et de la société civile réunis au sein du mouvement du 5 juin, Rassemblement des Forces Patriotiques, en sigle M5-RFP. était prévue, donc cette démonstration de force était prévue ce vendredi, au moment où nous enregistrons. Une fronde conduite notamment par l'imam Mahmoud Diko, devenu la figure emblématique et intransigeante d'une radicale contestation. Les gestes d'apaisement du pouvoir au cours de la semaine n'ont pas permis de désamorcer ce qui a pris les allures d'une grave crise sociopolitique. Le président malien semble avoir épuisé toutes ses ressources face à une lame de fond qui dénonce sa gouvernance et réclame son départ du pouvoir. Face à cette situation critique, la CDAO, qui a dépêché une mission sur place, semble elle aussi se heurter à la détermination des opposants au régime. Je me tourne vers vous, bien sûr, Ibrahim Koulibaly, nous nous tournons vers vous. Vous vous trouvez d'ailleurs sur les lieux de cette manifestation. Je rappelle, nous sommes donc vendredi, au moment où nous enregistrons cette émission. Quelle est l'ambiance au moment où nous parlons, Ibrahim Koulibaly? Est-ce que cette manifestation est en cours à Bamako?
Oui, la manifestation est en cours, l'ambiance est électrique, parce que les gens commencent à venir, les gens y ont passé la nuit sur place. Certains jeunes sont venus passer la nuit sur place au monument de l'indépendance. Donc depuis le matin jusqu'à l'heure où nous parlons, des gens continuent à venir parce que l'heure du rendez-vous, c'était à partir de 14h. Donc là, on assiste à une certaine affluence. Les gens viennent de tous les côtés de Bamako. Donc la manifestation n'est pas que grossir.
Alors l'offre de dialogue du président Ibeka a été rejetée cette semaine par les opposants, de même que sa proposition d'un gouvernement d'union nationale. Est-ce que le pouvoir malien a épuisé toutes ses ressources pour résoudre ce qui commence à ressembler à une révolte, Ibrahim Koulibaly?
Effectivement, vous avez trouvé le mot, c'est une révolte contre un système. Parce que si vous comprenez, les Maliens dénoncent aujourd'hui deux choses, le mépris et l'arrogance du système. Le président a méprisé les gens et on voit une certaine arrogance dans tous les actes qu'il pose, lui et son entourage, et ce qui fait les Maliens aujourd'hui. Aujourd'hui, ce n'est plus une question de personnes, c'est des problèmes réels qui sont là et qui motivent chaque manifestant à prendre part à la manifestation. Ce n'est pas l'imam Mahmoud Diko, ce n'est pas les autres hommes politiques, mais chacun est là pour son propre problème parce qu'aujourd'hui, reconnaissons qu'au Mali, ça ne va pas. On peut prendre un seul secteur où on peut dire qu'il y a de la calme. Tous les jours, nos soldats sont canardés, excusez-moi l'expression, tous les jours, l'économie défonce. Tous les jours, sur le plan social, il y a des grèves illimitées partout. Ça ne va pas du tout. Et dans tout ça, le peuple a l'impression que ça ne dit absolument rien au président. Tant que lui, il a son luxe et son confort, le reste, ce n'est pas son problème. C'est cette attitude vraiment qui commence à gâter la malheur.
Liliane.
Voilà. Je voudrais également m'adresser à vous, Ibrahim. Quelles sont les raisons de cette rupture profonde, je dirais même ce divorce entre le président et une bonne partie des Maliens? C'est vrai que vous avez dit que les Maliens ont l'impression que rien ne marche et que le président ne s'occupe que de lui-même. Mais est-ce qu'au fond, on peut rendre le président responsable totalement de la situation sécuritaire actuelle quand on sait que le pays fait face à des fortes tensions notamment dans la partie nord et même du centre, et traverse aussi de graves difficultés économiques?
Le président, il en est entièrement responsable. Lui et son régime en sont entièrement responsables. Vous savez, en 2013, quand on organisait les élections au Mali, le Mali sortait d'une grave crise après le coup d'État contre Amadou Toumani Touré. Le pays était dans un chaos.
Et l'occupation de 2012.
Oui, le Malien, dans leur grande majorité, ont opté pour Ibrahim Boubacar Keïta, pensant que c'était un homme de poing qui pouvait résoudre les problèmes. Mais une fois élu, qu'est-ce qu'on a compris? Chez lui, il pense qu'être élu président, ça suffit. Il est venu sans programme, sans vision. Il a fait 5 ans. Les gens pensaient que bon, c'était un premier mandat après un chaos. C'était extrêmement difficile. Il fallait lui donner la chance d'avoir un second mandat pour lui permettre de prendre la température réelle des choses. Ça a été pire. Aujourd'hui, on a compris qu'on se trompe, il ne gère pas le pouvoir. Depuis 2013 jusqu'à maintenant, c'est son fils et sa femme qui dirigent le pays. Donc c'est ça le problème. Donc lui-même, on se pose la question sur la température réelle du pays. Moi, je pense que c'est à partir de la marche du 5 dernier.
Mais ses partisans affirment, Ibrahim, que la guerre contre les djihadistes coûte extrêmement cher et que les caisses de l'État ne permettent pas, l'État des caisses ne permet pas aujourd'hui de répondre à toutes les demandes sociales et de travailler à l'investissement dans les infrastructures, par exemple. Qu'est-ce que vous pensez de ces arguments donnés par ces partisans?
Liliane, avec tout le respect que j'ai pour ces ministres et tous ces gens-là qui l'accompagnent, mais aujourd'hui, ils sont venus rater pour manger. ce n'est pas pour venir aider le président Ibrahim Bazar Keïta à résoudre le problème des Maliens. Aujourd'hui, les partis qui composent la mouvance présidentielle sont beaucoup plus nombreux que les partis qui font parler de l'opposition. Mais malgré tout, l'opposition arrive à mobiliser 5 fois, 10 fois mieux qu'ils avaient projeté de faire une contre-marche. Ils n'ont pas pu. Donc, ça veut dire qu'ils sont là, ils n'aident pas le président, ils sont là pour leur propre confort. On dit que les djihadistes, on dit contre le terrorisme, ça coûte cher. Mais l'État n'a pas diminué son train de vie. Le président Ibrahim Bazar lui-même n'a pas diminué ses voyages. Il voyage avec 180 personnes toutes les années, y compris ses petits-fils. Au même moment, comme il y a des détournements d'armées pour acheter des armements, détourner des avions qu'on va payer, des avions sans équipement, on va payer des blindés en temps. Tellement de gâchis, on ne peut pas nous opposer.
Donc c'est principalement la mauvaise gouvernance. Merci Ibrahim. On va écouter notre invité. Merci Ibrahim.
On va solliciter un commentaire de Domitien Ndayizeye. Domitien Ndayizeye, monsieur le président, alors vous entendez, je sais que Bujumbura est très loin de Bamako, mais voilà, c'est un énorme catalogue de griefs que les opposants brandissent pour dénoncer le régime malien. Ça va de l'échec de la politique sécuritaire à la crise de l'école, en passant par la corruption, la gestion de la crise sanitaire ou encore les fraudes électorales, notamment lors des dernières législatives. Est-ce que vous pensez que ce pouvoir peut survivre à ce réquisitoire?
Bon, c'est très difficile, en fait, de résoudre ce genre de problème quand on n'est pas bien informé. Je crois que la première chose qu'un chef d'État doit avoir, c'est de connaître la réalité du terrain et surtout de d'avancer la population dans sa réaction. Et cela demande d'avoir une très, très bonne information, un bon diagnostic. Et ça, c'est une première chose. Deux, que des pays aient des défis à lever liés à la guerre, et il y a des difficultés intrinsèques au pays, c'est tout à fait normal. Mais l'avantage que doit avoir à tout dirigeant, c'est de les identifier et de les partager avec l'ensemble de la population. Nous avons vécu cela, nous, ici, en période de guerre, etc. Mais je me souviens que je passais presque la moitié de mon temps à appeler les syndicats, etc., pour leur expliquer. Ils ont toujours compris, parce que eux, ils puisent dans les richesses que produit le pays. Ils ne puisent pas dans les richesses, ils ne puisent pas dans la poche du président. Le président, c'est un coordonnateur de toutes les activités nationales. Et c'est pour cela que pour moi, quels que soient les défis qu'il y a, le dialogue est un cadre permanent qui sauve normalement les régimes ou les pays qui sont en difficulté. Les pays en difficulté.
Et peut-être aussi la transparence.
L'absence de débat est fatale. Il est fatal. Donc, que les gens en arrivent à devoir se mettre dans la rue, ça c'est une chose, mais que le pouvoir accepte ces démonstrations, ces manifestations, c'est aussi un point positif qui probablement est en train d'appeler responsable politique a une meilleure réflexion. Et je crois que la démarche du chef de l'État à ce qu'il puisse y avoir ce dialogue, etc., est une bonne chose. Mais je crois que les manifestations n'empêchent pas le dialogue. Vous savez, même en période de guerre, on négocie. Et je crois que c'est une façon d'économiser non seulement les énergies, mais d'éviter de plus grandes pertes pour la nation. Maintenant, merci. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que la population puisse se mettre à l'écoute de son chef de l'État? Je crois que tout cela dépend de la gestion qu'il a faite de la période antérieure, qui évite le ras-le-bol. Le ras-le-bol, c'est quelque chose de très mauvais à l'endroit des chefs de l'État. Et je crois qu'à un certain moment, quand les choses vont très mal et quand on voit que les conséquences risquent d'être énormes au niveau de la nation, principalement en termes de vie humaine, il faut que nous, en Afrique, nous prenions ce courage de dire à l'ensemble de l'opposition, s'il vous plaît, aidez-moi à gérer et aidez-moi à pouvoir répondre à cette préoccupation populaire.
Merci beaucoup.
C'est ça.
Francis,
une dernière question, Ibrahim Koulibaly, pour qu'on comprenne bien la séquence en cours à Bamako, Ibrahim Koulibaly. Donc voilà, donc un mouvement qui réclame la démission du chef de l'État Ibeka. Réaction du chef de l'État, le chef de l'État tend la main à cette opposition comme si finalement lui-même légitimait la revendication de ce mouvement de contestation. Une question de fond, hein, Ibrahim Koulibaly, que reste-t-il aujourd'hui encore de l'autorité de l'État ?
L'autorité de l'État, s'il en reste encore, moi je n'en vois pas, parce que aujourd'hui, n'importe quel citoyen défie l'État, parce que l'État n'est pas arrivé à faire face à ses fonctions régaliennes. Parce que quand les citoyens ne se sentent pas rassurés, protégés par un État, pas de raison que la population continue à faire confiance à cet État-là. Aujourd'hui, c'est tout le problème. Imaginez ce qui se passe au Mali. Nous avons signé un accord avec des partis. Aujourd'hui, pour son liquidable.
Vous voulez parler de l'accord d'Alger signé en 2015, l'accord de paix.
L'accord d'Alger. Les Maliens sont frustrés de tous. On voit à Kidal, au moment où ils célèbrent leur indépendance, ils gracient des prisonniers, ils accordent des conflits. Au moment où ils sont députés à l'Assemblée du Mali. Donc où est-ce qu'on va?
Donc vous pensez que le président Ibrahim Boubacar Keïta n'a pas suffisamment fait ce qu'il fallait pour l'intégrité, pour défendre l'intégrité territoriale du Mali?
Oui,
puisque vous évoquez Kidal.
Aujourd'hui, tout ce qui se passe là, c'est la cristallisation de l'ensemble de l'ensemble malien. Parce que vraiment, les gens ont accepté, les gens ont toléré, croyant qu'il va se réveiller, il va reprendre la main. Mais aujourd'hui, tout le monde est convaincu que le régime a atteint son seuil d'incompétence et son seuil d'intolérance.
En un mot, Ibrahim, voilà, une mission de la CEDEAO a été dépêchée. Francis en parlait en introduisant le sujet. Qu'est-ce qu'il faut attendre de cette mission? Quelle solution quand on sait que l'opposition a rejeté la main tendue et que les manifestations se poursuivent? Quelle solution?
Oui, la mission de la CEDEAO. La CEDEAO est venue hier, ils ont été reçus par des partis, mais la CEDEAO n'est pas venue imposer un agenda. La CEDEAO est venue toujours pour écouter les différentes parties. Elle n'est même pas venue avec une proposition. Elle est venue, c'est une séance d'écoute.
D'accord, mais qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui face au blocage?
Ce qu'il faut faire aujourd'hui face au blocage, que le président écoute son peuple. C'est tout ce que le peuple demande.
Qu'il démissionne?
Qu'il démissionne, c'est ce que les gens demandent.
D'accord.
Aujourd'hui, après la marche du 5, combien de temps? Il n'a pas réagi, il n'a pas fait de déclaration ni rien. C'est lorsqu'il a su qu'une deuxième marche est prévue aujourd'hui, qu'il est sorti de son sommet et les gens lui ont dit « fais attention ». En 3 jours, il a fait 2 déclarations, il a fait 2 sorties.
Alors merci, des sorties boycottées par sorties boycottées par l'opposition. Francis, ouais. On me fait signe que le président veut rien. 30 secondes, monsieur le président, sur le sujet.
Oui, je vous en prie. Merci beaucoup. D'abord, moi je voudrais que dans cette histoire de... dans ce problème qu'il y a, je pense que chaque parti devrait avoir une proposition. Et quelquefois, quand on se réfère uniquement à l'esprit de foule, à des réactions d'insatisfaction, la plupart des fois, les gens écoutent beaucoup plus les problèmes qu'ils ont et ils pensent moins à des solutions. Et quelquefois, les solutions sont très dures et les solutions ne sont pas évidentes. Alors, moi, je conseillerais que toutes les parties, même la partie qui est en manifestation, il faut qu'ils aient des solutions, des voies de solutions qu'ils doivent proposer à leur ensemble et pourquoi pas les partager avec même ces autres opposants. C'est l'intérêt du dialogue. Alors, après s'être mis d'accord sur les voies de solutions, alors à ce moment, on choisit la personne la mieux indiquée pour pouvoir les mettre en application.
Merci beaucoup.
On risque de le mettre dehors, mais ne pas avoir une personne qui doit le remplacer immédiatement. C'est-à-dire qu'il faut quitter une situation pour entrer directement dans une autre, parce qu'un pays dans cette situation ne peut pas rester sans État.
Merci beaucoup. On va passer, Francis, très rapidement au dernier sujet. Oui. Le poison du racisme fait toujours rage et le combat doit donc encore être mené. Déclaration de la vice-secrétaire générale de l'ONU, Aminata Mohamed, d'autres hauts responsables de l'organisation, de même que le frère de l'afro-américain George Floyd, tué par un policier blanc lors d'une interpellation, ont dénoncé les les violences et les discriminations que subissent les Afro-Américains. C'était mercredi lors du débat urgent au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, demandé la semaine d'avant par le Burkina Faso au nom du groupe des États africains après le décès de George Floyd. Elle a même souligné des actes racistes dont elle-même a été victime alors qu'elle était lycéenne au Royaume-Uni et puis dans sa vie professionnelle. Je commence avec vous, Monsieur le Président. Selon les Nations Unies, selon elle, la vice-secrétaire générale des Nations Unies, l'ONU avait la responsabilité ou a la responsabilité de répondre aux victimes du racisme au nom de l'égalité des droits inscrite dans la charte fondatrice de l'ONU. Est-ce que vous pensez que cet appel des hauts dirigeants des Nations Unies va finalement être un coup d'épée dans l'eau ou alors va peut-être déclencher ce changement et pousser à la mise en place de cette commission d'enquête indépendante sur le racisme que demandent les pays africains?
D'abord, mener ces enquêtes, c'est un droit et c'est même un devoir des parties à savoir exactement ce qui s'est passé en détail. Mais n'empêche que les manifestations que nous voyons aujourd'hui indiquent bien cette ségrégation raciale et même cette brutalité à l'endroit des personnes de couleur noire. Et donc, il est de la responsabilité, non seulement des pays africains, mais aussi des Nations Unies, de s'y impliquer. Mais maintenant,
mais ça concerne les États-Unis qui se sont retirés en 2018 du Conseil des droits de l'homme. Les États-Unis se sont retirés de cet organe.
Alors, c'est fait par les hommes. Et ces hommes qui en font partie, ce sont des pays parmi lesquels se trouvent les gens qui violent ces droits qui sont reconnus par l'ensemble de la communauté internationale. Il n'y a qu'à écouter certaines manifestations de certains présidents comme Trump quand on est en train de parler de ces violations des droits de l'homme. Donc, pour moi, la démarche de faire des enquêtes, ça c'est une chose, mais une démarche d'une mise en application et même aller jusqu'à une mise en garde et même des menaces à l'endroit des personnes qui violent ces droits élémentaires de l'homme, moi, je considère que ce n'est pas une exagération.
Merci.
Parce qu'aujourd'hui, la couleur en soi n'est pas une indication d'une certaine violation, quelle qu'elle soit. Étant donné que quand même vous donnez le sang, ne regardez pas si le sang vient d'un noir ou d'un autre. Et puis, deuxièmement, je crois que c'est une traduction dans certains rapports de force entre des États ou entre des communautés qui devraient changer.
Merci beaucoup. Francis.
Mais dans lesquels nous devons, nous les Africains, jouer un grand rôle par une affirmation et une recherche d'une indépendance de nos actions.
Merci
et
beaucoup.
De nos moyens et de notre technologie essentiellement.
Francis.
Une réflexion rapide, Ibrahim Koulibaly, sur cette demande d'enquête des États africains. Donc, ils font campagne pour que le Conseil des droits de l'homme les Nations Unies donc, se penchent sur le racisme systémique aux États-Unis. Est-ce qu'on n'a pas le sentiment que l'histoire bégaye un peu? Parce que dans les années, au début des années 60, l'OUA, lors d'une grande conférence au Caire, avait déjà condamné les discriminations à l'encontre des Afro-Américains. À l'époque, ils réclamaient leurs droits civiques. Et voilà, quelques 50 ans plus tard, pratiquement, même plus, aujourd'hui, donc, l'Union africaine, les pays africains, qui montent à nouveau au créneau donc, pour réclamer des.
Une enquête,
en tout cas, tout le moins, en tout cas pour condamner. Et les actes de racisme à l'encontre des Afro-Américains. Est-ce que ce sursaut africain était devenu indispensable?
Ibrahim?
Okay, moi je dirais que c'est un éveil, ce n'est pas une découverte, c'est un éveil des populations, soit les institutions et les structures africaines ou à travers le monde. Je suis suffisamment fait contre ce système-là. Donc aujourd'hui, c'est le peuple qui se réveille, c'est le peuple du contexte, c'est le peuple qui n'a fait qu'il crue. Donc, moi, je pense que la gouvernance mondiale est raciste. Il faut avoir le courage de le dire, que ce soit dans les domaines de l'économie, de l'histoire, de la science, et même du sport. La gouvernance mondiale est raciste. Tout est fait contre le monde. On nous exploite, on dit chez nous. Regardez mes pays, la France et d'autres, ils viennent faire tout ce qu'ils veulent en Afrique. Quand ils ne viennent pas d'un certain temps, ils font un coup d'État. Alors que pour aller chez eux, nous, on n'a même pas le visa. Donc, le système mondial, c'est une gouvernance raciste. Mais aujourd'hui,
merci.
Heureusement, mieux vaut tard que jamais. Les peuples commencent à comprendre. Les institutions, aujourd'hui, si l'IA fait quelque chose, l'IA ne peut que emboîter le pas des peuples. Hein. Donc moi, je pense que finalement, dans cette question-là, un peuple qui sont en train de mettre au pas les institutions et les structures africaines ou d'autres structures à travers le monde pour lutter effectivement contre ce système mondial.
Merci beaucoup. On écoute à présent. C'est le moment de le faire. En tout cas, Liliane, les messages de nos amis sur Internet, sur notre page Facebook, recueillis et livrés par Didier Ladislas Lando.
Réagissez et laissez-nous vos commentaires via notre compte Twitter @débat BBC Africa et sur notre page Facebook facebook.com/débat BBC Africa.
Bonjour Liliane, bonjour Francis, bonjour à tous. Voici quelques réactions d'internautes recueillies sur la page Facebook de l'émission. Burundi, merci Runzinga, pense que le nouveau président burundais va s'inscrire dans la continuité car il partage les mêmes idéologies de développement que le feu président Pierre Nkurunziza. Brahim Youssouf Goucher lui affirme par contre que le président Ndayishimiye optera pour une toute autre posture avec un plan d'action qui assurera un avenir meilleur à la nation burundaise. Tidjane Botegueba demande à notre invité s'il pense que la main tendue du nouveau président aux exilés politiques marque la rupture avec la gouvernance du feu Nkurunziza. Mali, Thomas Ndjangana estime que le président doit recourir à une conférence nationale souveraine et démocratique afin d'écouter tous ses détracteurs et trouver ensemble une porte de sortie. De son côté, Brahima Sam Dembélé affirme que tant que le président Ibeka ne va pas dissoudre le Parlement et la Cour constitutionnelle, il aura du mal à convaincre les forces vives de la nation. Racisme, Mbéfis Kiti estime que les timides réactions des présidents africains dans cette affaire montrent à suffisance que la requête des pays africains pour une enquête sur le racisme aux États-Unis aura du mal à prospérer. Merci à Charles Bazema pour sa fidélité. Merci de continuer à nous suivre sur les réseaux sociaux à l'adresse facebook.com/le débat BBC Africa-Africa Radio et sur Twitter à @débat BBC Africa. Et d'ici là, bon week-end à tous.
Bon week-end à vous,
aussi, Didier.
Président Domitien Ndayizeye, c'est la tradition. En quelques secondes, une conclusion générale, peut-être pour souhaiter bonne chance à votre pays, le Burundi.
Moi, en tout cas, je donne le bénéfice au président actuel.
Et
j'ose espérer que, de toutes les façons, il va opérer certains changements au niveau national. Et nous allons suivre surtout la mise en application de sa politique. Et surtout, nous espérons beaucoup d'ouverture de sa part en termes de dialogue, mais aussi en termes de développement intégral de l'ensemble de la nation, qui ne sera pas, limité aux éléments de son parti politique, mais qui va s'étendre à l'endroit de l'ensemble de la population burundaise. C'est ça qui va nous aider à opérer un développement harmonieux de l'ensemble de la nation et nous sortir de la dernière place sur les pays, sur la liste des pays sous-développés.
Merci beaucoup, Président Domitien Ndayizeye. Merci d'avoir été notre grand témoin dans cette édition de débat BBC Afrique, Africa Radio. Domitien Ndayizeye, ancien président de la République de Burundi. Merci également à notre confrère Ibrahim Koulibaly, qui est toujours d'ailleurs en ce moment même au milieu de la manifestation qui est en cours à Bamako, manifestation anti-Ibeka. Ibrahim Koulibaly, directeur de la publication de l'hebdomadaire La Nouvelle Tribune, édité au Mali. L'émission a été réalisée à Dakar par Abdou Diop. Régie technique assurée à Paris par Hugo Vallière, chargé de production Didier Ladislas Lando. Vous pouvez bien sûr écouter cette émission en podcast sur nos sites respectifs africaradio.com et bbcafrique.com. Rendez-vous la semaine prochaine, Liliane, pour une nouvelle édition
du
débat BBC Afrique, Africa Radio, bien sûr. Bon week-end à vous, bon week-end à toutes et à tous.
Merci à vous également, Francis Daloupo, et à tous nos auditeurs et toutes nos auditrices. Au revoir.
Au revoir.